Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une très grande dame de l'histoire que Franck Ferrand nous propose de découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. La dame en question, si vous voulez mon modeste avis, aura été l'une des figures les plus passionnantes de toute l'histoire occidentale. On ne rêve pas comme elle a vécu, pour reprendre une formule de La Bruyère à propos de Lauzun. Aliénor a été duchesse d'Aquitaine et reine de France, puis reine d'Angleterre. C'est la mère de Richard Cœur de Lion, bien entendu. Elle a participé à une croisade, elle a été kidnappée par des pirates, elle montait encore à cheval à 70 ans passés. Pour la faire revivre, j'ai convié cet après-midi Isaure de Saint-Pierre, auteur de Aliénor l'Insoumise. L'Insoumise, je pense que cette épithète lui convient parfaitement.
De quand date la droite et la gauche en politique? Telle est la question que vous pose par ailleurs Pierre-Louis sur le site internet d'Europe 1.
Eh bien, je répondrai volontiers à Pierre-Louis quelques minutes avant la fin de l'émission. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec une personnalité qui, si j'ose cet anachronisme, transcende les clivages. Aliénor d'Aquitaine, à moins que vous ne l'appeliez Éléonore. Nous voilà rattrapés par l'alternative. Aliénor d'Aquitaine nous attend.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voici un personnage qui aura bercé mon enfance et ma jeunesse, Poitevine. La capitale du Poitou reste aujourd'hui encore baignée du souvenir de la duchesse d'Aquitaine qui a tenu là une cour très brillante et a durablement marqué la ville de son empreinte. Je dis d'ailleurs aux Poitevins qui nous écoutent que s'ils vont admirer tout au fond de la cathédrale qui date de cette époque le vitrail de la crucifixion de Saint-Pierre, eh bien ils verront en bas, à gauche, une des très rares représentations contemporaines d'Aliénor. Aliénor a été la commanditaire de ce sublime vitrail dont on a d'ailleurs perdu la formule des vers. Il y a des vers absolument d'une profondeur et d'une intensité tout à fait extraordinaire sur cette verrière de Saint-Pierre. La belle, la fantasque, l'insaisissable Aliénor d'Aquitaine, qu'on appelait aussi à l'époque Éléonore de Guyenne. Dans quelques jours, le 22 mars, je ferai près de Poitiers une conférence au cours de laquelle je parlerai plutôt des aspects culturels et justement des cours d'amour. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse évidemment, c'est la vie, c'est la biographie tellement surprenante de ce grand personnage. Cette femme aura été jeune la plus puissante héritière d'Occident, au point de faire basculer par deux fois la géopolitique européenne, si j'ose employer cet anachronisme, lorsqu'elle devient, par ses mariages successifs, reine de France, puis reine d'Angleterre. Soit dit en passant, quelle destinée. Mais en même temps, et j'allais dire surtout par sa position élevée, par son fort caractère, par son goût de la culture, et par sa longévité, Aliénor va contribuer à transformer de fond en comble la société médiévale du XIIe siècle, en modifiant notamment le statut que cette époque réserve à la femme. Aliénor aura vécu à ce moment charnière, où l'on passe de l'époque romane à l'époque gothique, de Saint-Augustin à Saint-Thomas d'Aquin en quelque sorte, de la féodalité à la royauté, des grands-duchés aux nations balbutiantes. Or, et pour forcer un petit peu le trait, je dirais qu'avant elle, les hommes disposaient des femmes et que les poètes vantaient surtout les beautés de la guerre. Eh bien, après elle, et en partie grâce à son action, les galants seigneurs se mettront au service de leurs gentes dames, tandis que les troubadours leur chanteront les douceurs de l'amour courtois. Vous avouerez que c'est nettement plus raffiné. Elle a 15 ans, Aliénor, 15 ans tout juste, lorsque son père, le très puissant duc d'Aquitaine, une sorte de géant de 38 ans, vient à mourir sur le chemin de Compostelle. La voilà donc orpheline, vulnérable, héritière du plus beau des duchés. Avant de rendre l'âme, le duc Guillaume a quand même eu le temps de dépêcher un messager à son seul suzerain, le roi Louis VI de France, pour lui confier sa fille et lui demander de trouver à cette jeune fille un époux digne d'elle. Autrement dit, l'époux en question va hériter par la même occasion l'extraordinaire douairie d'Aquitaine. Ce sera le propre fils du roi, puisque Louis VI accepte et que l'alliance, on peut le dire, est rondement menée. C'est un mariage d'héritier, qui est donc célébré en 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Une jeune orpheline de 15 ans apporte dans sa corbeille nuptiale Louarie d'Aquitaine, autant dire tout le sud-ouest de l'actuelle France. Elle est unie devant Dieu à ce jeune prince de 17 ans qui lui-même héritera un jour de la couronne de France. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ducs d'Aquitaine ont beau être les vassaux des rois de France, ils sont à la fois plus riches qu'eux et 5 fois mieux pourvus en territoire. Surtout, ils se trouvent à la tête de cités brillantes, Bordeaux, Toulouse, Clermont, d'un état de Languedoc encore latinisé, ouvert sur l'Orient, porteur d'une culture nettement plus fine et plus civile que celle du petit état capétien de Languedoc, très fruste, très religieux, dont la superficie correspond grosso modo à l'île de France et dont les centres, Paris, Mantes, Senlis, Melun, etc., sont encore à peu de choses près de grosses bourgades de campagne. Il semble que les deux tourtereaux, Louis et Aliénor, se plaisent mutuellement. Il faut dire qu'ils sont tous deux jeunes et beaux, pleins d'avenir. Bref, leur lune de miel est parfaite et c'est de belle humeur qu'ils remontent avec toute leur petite cour vers le royaume de France. Ils sont environ à mi-chemin et pénètrent dans Poitiers par le pont de Montierneuf quand un messager à cheval leur apporte une nouvelle fracassante. Le roi Louis VI vient de mourir. Les voilà donc, après seulement quelques petites semaines de mariage, les voilà propulsés sur le trône. Ils sont dès à présent le roi Louis VI et la reine Aliénor ou Éléonore de France. Éléonore, c'est en langue d'ol, évidemment. En réalité, il faut que je vous dise que, sous la façade d'un jeune couple heureux, se cache une profonde opposition de caractère entre Aliénor et son mari. Lui est un jeune souverain pénétré de religion et qui d'ailleurs se destinait plus ou moins à la vie monastique quand la mort accidentelle de son frère aîné l'a renvoyé à la vie civile. Au-delà d'une question de tempérament, il y allait pour lui de son existence politique. N'oubliez pas qu'à l'époque, la seule légitimité des rois de France en tant que suzerain de leurs puissants et dangereux vassaux, c'est précisément ce caractère religieux que leur confère le sacre. Eux sont souverains par la grâce de Dieu. Or, Louis VII est conscient de cette sacralité. Il en est conscient à chaque instant de sa vie. En face de cela, vous avez une Aliénor qui, elle, a pris des distances vis-à-vis de la religion. Elle descend d'une lignée de ducs d'Aquitaine dont la piété n'était sûrement pas la première vertu. Son propre grand-père, qui se voulait poète, affichait un paganisme inspiré des antiques. Bref, la jeune reine est vite excédée de ce qu'elle considère comme les bondieuseries de son époux. Or, son tempérament à elle, volontiers emporté, s'oppose à la prudence du roi, prudence qui confine en l'occurrence à la frilosité. Résultat, elle va passer son temps à l'entraîner dans toutes sortes de conflits contre ses vassaux. Le comte de Toulouse, le comte de Champagne, pour ne rien dire de certains prélats comme l'évêque de Bourges. Et tous ces conflits minent le roi qui en veut finalement à sa femme de manquer à ce point de diplomatie. De plus, et c'est sans doute plus grave, les années passent et aucun enfant ne naît de cette union. À l'époque, pour une reine, la stérilité, j'allais dire, est presque un crime. C'est sans doute excessif, mais en tout cas, c'est un défaut très grave. Aliénor décide donc de faire repentance publique. Le 11 juin 1144, elle est avec le roi à Saint-Denis pour l'inauguration du chœur de la basilique, édifié dans un style tout nouveau, qui ne porte évidemment pas encore le nom de gothique. C'est bien sûr le vieil archevêque Suger lui-même, l'ancien bras droit de Louis VI, et qu'Aliénor a contribué à faire éloigner de la cour qui les reçoit. Seulement, la reine s'adresse pour son acte d'humilité à un autre ecclésiastique, le célèbre Bernard de Clairvaux, le fondateur de ce qui va devenir l'ordre cistercien. Le saint lui promet un enfant et de fait, elle mettra au monde une petite fille, Marie, l'année suivante. La descendance de Louis VII n'est pas pour autant assurée. Or, c'est le même saint Bernard qui va bientôt prêcher la deuxième croisade. Il faut savoir qu'à l'époque, les états chrétiens de Syrie et de Palestine sont menacés par les musulmans. Aliénor va pousser son mari dans l'aventure et tous deux partent pour l'Orient à la tête d'une imposante armée de croisés. On est au printemps 1147. Est-ce que cette odyssée va rapprocher les deux époux? J'ai bien peur que ce ne soit le contraire.
Thank you.
Alphonse Lesage sur Europe 1, un extrait de Cantigas de Santa Maria. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Aliénor d'Aquitaine.
Ainsi donc, Aliénor d'Aquitaine, qui a joué sur la fibre religieuse de son mari, le roi de France Louis VII, est parvenue à le traîner avec elle jusqu'en Terre Sainte. Ils sont donc à Antioche, où règne le prince Raymond de Poitiers, qui se trouve être un oncle d'Aliénor et qui passe aux yeux de ses contemporains pour un parangon de force et de beauté. Est-ce que la nièce va finir par succomber au charme du tonton? Certains historiens le prétendent. Ce qui est certain, c'est que la reine va prendre parti pour le prince contre le roi, son époux. Alors, je ne vais pas entrer dans l'enjeu du débat. En l'occurrence, c'est la cité clé des croisés, c'est Édesse, sur laquelle les Turcs viennent de faire main basse. Mais sachez qu'en tout cas, les relations entre Aliénor et Louis se détériorent considérablement. Et puisque le roi ne veut pas soutenir le prince Raymond, eh bien, elle décide, elle, qu'elle l'accompagnera et lui apportera son soutien, le soutien des chevaliers aquitains. Vous voyez quand même qu'elle a d'une indépendance d'esprit tout à fait extraordinaire. Pour être religieux, Louis VII n'en est pas pour autant naïf. Et avant que sa femme n'ait consommé le scandale, il va l'enlever comme un bandit de grand chemin, la ramener avec lui. Il rentre cependant par des bateaux séparés et celui de la reine, figurez-vous, est capturé par une escadre byzantine. Quand je vous disais que cette existence est romanesque, on comprend qu'elle inspire évidemment les écrivains. Ce sont des Normands qui la délivreront, la ramèneront à son mari qui l'attendait en Italie. Et c'est alors que parvient la nouvelle de la mort au combat naturellement de Raymond de Poitiers. Aliénor tombe malade, le moment est venu pour une réconciliation entre les époux et c'est le pape lui-même qui s'y colle. Il va parvenir à les faire dormir, coucher dans le même lit. Et d'ailleurs, à son retour en France, Aliénor donne le jour à un second enfant, encore une fille. Il n'empêche que, dans l'esprit de la belle duchesse d'Aquitaine, cette union est déjà morte. La question est donc de savoir par quoi la remplacer. Cette question, ce sont les comtes d'Anjou, père et fils, qui vont lui apporter une réponse. Il faut là que je vous éclaire sur l'importance, à cette époque toute neuve, de la famille Plantagenet. Ils sont depuis longtemps suzerains d'un vaste territoire entre la Loire et la Seine. Or, à l'occasion d'un conflit en 1151, un conflit à propos de la Normandie, Geoffroy et Henri sont venus à la cour de France. Ils ont résidé à Paris. Aliénor les a trouvés à son goût, le père comme le fils. Sauf qu'en septembre de cette même année, 1151, Geoffroy se baigne une fois de trop dans le Loir, aux eaux glacées. Il meurt dans la foulée. La reine de France en tire des conclusions rapides. Le père ayant disparu, il s'agit de miser sur le fils. Aliénor a 10 ans de plus qu'Henri Plantagenet, mais elle n'en a pas moins décidé de l'épouser. Le problème, c'est que pour l'instant, elle est toujours l'épouse tout à fait légitime du roi Louis VII. Il va falloir que le roi consente à l'annulation du mariage, ce qui ne sera pas très difficile. Un concile est réuni à Beaugency, étudie des questions de parenté et l'on prononcera finalement l'annulation. Aussi sec, Aliénor regagne ses terres aquitaines. Elle s'installe à Poitiers. Elle a recouvré sa liberté d'action le dimanche des Rameaux 1152. Et bien, deux mois plus tard seulement, imaginez l'importance du scandale, on annonce son mariage en grande pompe dans la cathédrale de Poitiers avec le jeune duc d'Anjou. Les fêtes sont magnifiques, le vin de Bordeaux déjà coule à flot, stupéfaction à Paris et colère noire de Louis VII qui réalise qu'il aura dans cette affaire, si vous me passez l'expression, été le dindon de la farce. Très bien, il va réagir. Alors que Henri se trouve déjà à Barfleur, en vue de traverser la Manche pour aller faire valoir ses prétentions sur la couronne d'Angleterre, le roi de France l'attaque sur ses terres, en Normandie. 6 semaines de combats terribles, au terme desquels Langevin se révèle assez fort pour imposer la paix à son propre suzerain. Et quand je dis à son propre suzerain, est néanmoins rival. Dès l'hiver de cette même année, la plus glorieuse sans doute dans la vie d'Aliénor, Henri Plantagenet sera vainqueur du roi d'Angleterre qui le désigne comme son successeur. Or ce roi Étienne va mourir opportunément 1 an plus tard, au moment même où Aliénor donne un premier fils à son nouveau mari. Tout a donc réussi au-delà de ses espoirs les plus fous. Aliénor vient de laisser la couronne de France pour recevoir celle d'Angleterre. Du même coup, c'est toute la partie ouest de l'ancienne Gaule Bandol, du Cotentin jusqu'aux Pyrénées, c'est tout ce littoral atlantique qui bascule dans le camp de Londres, ce qui affaiblit Paris hors de mesure. Il est dit vraiment que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences aussi phénoménales pour l'histoire qu'autrefois ceux de Cléopâtre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Aliénor d'Aquitaine.
Oui, chez Aliénor, les naissances se succèdent, elles affermissent cette dynastie nouvelle à coups de petits princes. De plus, en pratique, tandis qu'Henri II administre ses états du Nord, Aliénor, elle, a tout loisir de reprendre en main toutes ses possessions dynastiques. Elle redevient couronnée, une sorte de super-duchesse d'Aquitaine, si vous voulez. Elle s'installe à Poitiers. C'est l'époque où elle institue les fameuses cours d'amour dont nous allons parler avec Isaure de Saint-Pierre. Alors, vous vous doutez bien qu'une personnalité de la trempe d'Aliénor ne va pas longtemps s'accommoder d'un époux qui la trompe, parce que c'est ça le problème. Entre les deux, il y a très vite une grande mésentente. Henri II Plantagenet est un véritable coureur de jupons. Il ne peut même pas se cacher, si je puis dire, et il n'arrive pas à dissimuler ses idylles avec des maîtresses qui n'ont en vérité même pas la moitié de l'âge d'Aliénor. Ça pose problème. En dépit de toute son intelligence, Aliénor n'accepte pas la situation et en 1169, les trois premiers fils qu'elle a eus avec Henri II, qui sont déjà presque de petits hommes, vont lui servir de levier et vont servir surtout d'aliment à son chantage. Ils ont l'âge de raison, disons Henri, dit le jeune à 14 ans, Richard, dit Cœur de Lion, en a 12, Geoffroy, 11. Par conseiller interposé, Aliénor convainc son mari que le moment est venu de les établir, autrement dit, de remorceler le bel empire de l'Ouest constitué par le mariage de 1152. Normandie, Maine, Anjou, tout ça ira à l'aîné, Aquitaine, Poitou au cadet, Bretagne au troisième. Henri II se laisse avoir dans cette affaire. Il ne voit pas où est le danger. Tous ces garçons, après tout, ne sont-ils pas ses fils aimants? Il va faire mieux que cela. En 1170, pour plus de sûreté, il fait, selon l'antique coutume des rois francs, couronner son fils Henri à Westminster par anticipation, sachant bien qu'il conservera néanmoins la couronne d'Angleterre, lui, jusqu'à sa mort. Dans l'ombre, depuis Poitiers où elle manigance tout, Aliénor sourit, son fougueux époux a donné dans le piège tête baissée, et d'autant plus qu'il n'a pas du tout le vent en poupe, notamment le meurtre de l'archevêque Thomas Becket, dont j'ai eu l'occasion de vous parler ici même, lui aliène une bonne part de ses contemporains. Il a beau faire amende honorable, Henri II, on peut dire qu'il a perdu la main, le moment est venu pour Aliénor de contre-attaquer. Et en 1173, à l'occasion d'un grand conseil à Limoges, son fils aîné, qui maintenant a 18 ans, s'oppose ouvertement et publiquement à son père sur la question de la dotation du dernier des frères, le petit Jean sans terre, le bien nommé. Le père tombe des nues et il se tourne vers son épouse. Il a bien compris que c'est elle, évidemment, qui agit dans l'ombre. Alors il va décider de reprendre Henri le Jeune sous sa coupe. Il ne le quittera désormais plus d'un pouce. Seulement un beau matin, à Chinon, le jeune roi, je l'appelle le jeune roi, après tout il est couronné, fausse compagnie à son père et court chercher refuge auprès de qui ? Auprès du roi de France, Louis VII, qui évidemment savoure sa revanche. Bien entendu, Paris restera sourd à toutes les injonctions de Londres. Alors, Henri II va réunir toute une armée pour descendre vers l'Aquitaine, vers les terres insoumises de sa terrible épouse. Aliénor sent le vent tourner. De nuit, déguisée en homme, elle quitte Poitiers au milieu d'une petite bande de cavaliers. Sa destination, Paris, bien sûr, la cour de ce roi qu'elle avait si affreusement trahi 20 ans plus tôt. Les soldats de son second mari arrêteront néanmoins sa course, on a envie de dire heureusement pour l'histoire et pour l'honneur. Et pendant plus de 15 ans, notre Aliénor s'en ira moisir dans diverses geôles d'Henri II, d'abord des monastères, puis des châteaux forts. Et c'est seulement en 1189, au moment où son mari, las de se battre contre ses propres fils, finit tout de même par se laisser mourir, ce n'est qu'alors que la reine recouvre sa liberté. C'est pour elle un second moment de grâce. Elle a 67 ans, mais toujours bon pied, bon œil. Et c'est elle qui règne en vérité à travers son fils Richard Cœur de Lion. Il faut vous dire que l'aîné Henri est mort lui-même jeune, en 1183, donc sans avoir pu régner effectivement. Si j'osais, je dirais que cela ne dérange pas la mère, qui a toujours préféré Richard, qu'elle surnomme le poids de vin et qui est demeuré très proche d'elle, au point qu'ils vont former une espèce de couple sur le trône d'Angleterre. Elle n'en va pas moins l'encourager à partir pour la croisade en compagnie de Philippe II de France, notre Philippe Auguste à nous. Pendant toute l'absence de Richard Cœur de Lion, Aliénor va réussir à 70 ans à déjouer les nombreux pièges et toutes les choses trappes d'un pouvoir très dangereux alors. Elle presse tout de même son fils de rentrer, il faut vous dire qu'elle est exténuée, et elle a le plus grand mal à contenir le petit dernier, ce Jean sans terre, que son traitement inéquitable a rendu odieux. Seulement en 1192, elle apprend que Richard a été fait prisonnier par un prince allemand dont il s'était fait un ennemi aux croisades. La rançon demandée est absolument énorme, 34 tonnes d'argent fin, la plus énorme rançon jamais réclamée. L'empereur germanique qui avait récupéré le captif devait savoir qu'Aliénor ferait tout pour libérer son fils chéri, et de fait la vieille reine ne va pas ménager ses efforts pour réunir cette somme gigantesque et la porter elle-même, en main propre, à l'empereur. Le 2 février 1194 à Mayence, Richard lui est donc rendu. Une fois encore, elle a triomphé de l'adversité. Alors, par la suite, tandis que la guerre fait rage entre l'Angleterre et la France, hier encore amie, elle va se retirer elle-même à l'abbaye de Fontevraud. Il faudra la mort de son fils lors d'une banale opération de police au château de Chaluz en Limousin pour la tirer de ce qu'elle-même pensait être une retraite méritée. Et la revoilà donc, à la toute fin, à 77 ans, qui remonte à cheval et se lance dans une vaste tournée de sa chère Aquitaine. Puis elle se rend en la bonne ville de Tours, faire hommage au roi Philippe de France. C'est pour elle le moyen d'obtenir la bienveillance de Paris pour son fils Jean. Elle donnera même la main de sa petite fille, Blanche de Castille, à l'héritier du trône de France. Pourtant, ses ultimes efforts ne sont pas suffisants. Malgré Aliénor, Jean va se révéler imprudent et mesquin. Il perdra la Normandie, qui va réintégrer finalement le royaume de France. Et c'est à l'annonce de cette nouvelle calamiteuse qu'Aliénor, retirée de nouveau à Fontevraud après une ultime chevauchée poitevine, se laisse mourir, je crois que le mot n'est pas trop fort, le 31 mars 1204, mourir de tristesse, de lassitude ou d'indifférence à tout après une vie si bien remplie. Bonjour Isaure de Saint-Pierre. J'ai parcouru à la hussarde la vie de cette reine qui a vraiment vécu à elle toute seule cette vie comme les chats, dit-on. Nous allons avec vous revenir sur un certain nombre d'aspects et creuser ce qu'il y a de plus brillant dans la personnalité et dans le règne d'Aliénor d'Aquitaine.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Isaure de Saint-Pierre, reporter et écrivain, auteur d'Aliénor l'Insoumise aux éditions Albin Michel.
Ce n'est peut-être pas finalement la moindre des qualités de cette reine que sa fermeté, sa vigueur à toute épreuve. On la voit devenue une vieille dame, monter encore à cheval, réunir la rançon de son fils. On la verra même aller chercher sa petite fille pour en faire l'épouse de l'héritier du trône de France, Isaure de Saint-Pierre.
Oui, Franck, sa principale force, c'est qu'elle avait une santé à toute épreuve, qu'elle a pu avoir des enfants, ça se passait bien, vite, elle était jamais malade. Mais son père l'avait quand même élevée comme un garçon quand il avait vu qu'il n'avait plus d'héritier puisque son fils était mort. Donc, elle montait à cheval tous les jours, elle savait tirer à l'arc et à l'arbalète, ce qui était assez rare pour une femme. Elle nageait très bien et tout ça lui avait fait une santé à toute épreuve.
Ah oui, c'était vraiment un personnage qui est hors de son temps d'une certaine manière, qui semble le dominer complètement. Alors, j'allais dire, ça n'est pas du jeu de prendre un personnage dont la vie est tellement riche en rebondissements. Le romancier n'a quasiment plus rien à imaginer.
C'est un petit peu vrai quand on écrit des romans historiques, qu'on se laisse porter un peu par les faits. Mais ce qui est amusant, c'est d'essayer de vraiment les vivre. Moi, j'ai vraiment voulu la croisade. Je connaissais tout l'itinéraire qu'elle a fait.
Vous l'avez fait vous-même, cet itinéraire.
Oui, mais je l'avais fait au moment où c'était pas la guerre. En ce moment,
oui, évidemment, aujourd'hui, c'est plus possible.
Ça serait vraiment difficile. Mais donc, je connais toutes ces régions et c'est amusant parce qu'on l'imagine. Par exemple, elle est restée presque plusieurs mois à Constantinople. Alors, on imagine ce choc avec la ville d'or, le Basileus, etc. Et elle a adoré cette rencontre de deux civilisations, parce qu'il n'y a pas eu de vraie bataille pour la deuxième croisade.
Et ce qu'il faut dire, c'est que cette ville de Constantinople, si ce n'est par son immensité, n'a pas dû la dépayser tellement, elle qui avait été élevée à Bordeaux, dans une des cours les plus brillantes d'Occident. On est nettement plus raffiné à l'époque au château de L'Ombrière qu'on peut l'être à Paris, bien entendu.
Le palais de L'Ombrière était, paraît-il, la merveille d'Europe. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'en reste absolument rien. Et après, quand elle était revenue, justement, de la croisade, elle avait voulu mettre tout le raffinement oriental et à côté, le petit palais de la cité qui était sombre, obscur et assez crotté, c'était un peu minable à côté.
Ça a dû être une déception terrible pour elle.
Oui, elle a bien fait comprendre à sa belle-mère, Adélaïde de Savoie, qu'elle trouvait ça pas du tout chic et qu'en plus, il y aurait plus de place pour elle si la belle-mère s'en allait. Parce qu'elle avait quand même un caractère fort, on va dire.
Alors d'abord, il faut peut-être le préciser, elle était souverainement belle. Ça, c'est extraordinaire.
Tout le monde a parlé de sa beauté. Et celui qui l'a chanté toute sa vie, c'est Bernard de Ventadour. Parce qu'à partir de son mariage, bien sûr, il était pensionné pour chanter sa beauté, mais enfin, il ne l'a plus jamais quittée. Et tout son hommage à la beauté, à la femme, à la dame courtoise, etc. Puis des descriptions physiques. Par lui, on sait à peu près comment elle était. Elle avait des yeux verts, elle avait des cheveux d'un blond sans doute vénitien. Elle était grande, elle était élancée, elle était sportive. Et tous les hommes se pâmaient complètement, ça c'est sûr.
C'est vrai que les poètes l'ont tellement chanté. C'est Roger de Soissons qui écrit « Vers yeux riants ». Alors vert, pas la couleur vert, mais V-A-I-R. « Vers yeux riants, bruns sourcils, cheveux plus beaux que dorés, beau front, nez droit, bien assis, couleur de rose et de lis, bouche vermeille et soif, c'est-à-dire suave, col blanc nullement hâlé, gorge qui de blancheur raie, c'est-à-dire rayonne. »
C'est ravissant.
On a envie d'avoir un vrai portrait d'elle. Malheureusement, il n'en existe que de très indirects, sauf sur cette verrière dont je parlais tout à l'heure, mais ce n'est jamais qu'un portrait sur un vitrail, donc c'est très très peu explicite, évidemment.
Oui, bizarrement, la peinture, les enluminures, ça va venir deux siècles
plus tard. Un peu plus tard, mais oui.
Il n'y en a pas encore.
C'est-à-dire que ce qui nous fascine...
Et c'est très maladroit, les dessins qui...
D'une reine qui est entourée de musiciens, de poètes, des fameux troubadours, bien entendu, qui vit dans un luxe extraordinaire, qui établit avec l'Orient, que ce soit les royaumes chrétiens d'Orient ou avec, effectivement, pendant sa captivité, avec Byzance, des liens extraordinaires. On imagine tout ça dans le plus grand raffinement. Or, on est dans une période quand même très reculée. On est en plein XIIe siècle, dans un Moyen-Âge, dont le moins qu'on puisse dire est que, sinon sur un plan architectural, il est assez rude, bien entendu. C'est encore une période rude.
Oui, mais on découvre l'art des jardins, on découvre les jets d'eau, on découvre les étuves. On commence à avoir un petit peu le raffinement des bains turcs, c'est beaucoup dire. Mais quand même, on commence à se laver. Ça devait être agréable comme début.
Ça devait changer.
Oui, quand même.
Alors, on dit qu'elle-même était du reste très raffinée. Au-delà de cette beauté, de cette culture, elle était une femme d'un grand raffinement. C'est comme ça que vous nous la présentez, vous.
Mais elle était vraiment comme ça. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure de Thomas Becket. Elle s'est très bien entendue avec lui. Alors, il a eu plusieurs rôles auprès de lui. Il lui a enseigné, elle parlait et écrivait le grec ancien, mais il lui a enseigné toute la philosophie grecque. Ce qui était assez osé, parce que normalement, l'Église catholique interdisait qu'on propage les idées des philosophes grecs. Mais il l'a trouvée tellement intelligente que, pour elle, il a fait une exception. Et ensuite, ils se sont amusés ensemble à redessiner tous les jardins et tous les palais anglais qui étaient peut-être encore plus frustres que ceux de la petite cité.
Oui, plus on allait vers le nord, là, dans ces îles britanniques, ça devait être encore pire, on peut l'imaginer. Mais elle a civilisé, finalement. Elle a apporté ce vent du sud sur l'ensemble de ces territoires. Elle aura donc été à la fois, enfin pas à la fois, mais successivement reine de France, puis reine d'Angleterre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Louis VII, ça n'est pas un couple harmonieux. Ils ne se comprennent pas, ces deux enfants, si je puis dire, parce qu'ils sont enfants au moment de leur mariage et de leur avènement.
Le désaccord n'est pas survenu tout de suite, à mon avis, parce que tant qu'il lui a permis de siéger au Conseil, ce qui était quand même assez rare, même si elle était beaucoup plus riche que lui, même si toute l'armée et tout ça venait de, comme vous le disiez, de l'Aquitaine et du Poitou et de la Guyenne, une femme ne siégeait pas au Conseil. Elle siégeait. Et ça, c'est le roi qui a voulu. Suger n'a rien dit, mais au Conseil, elle ne parlait que si on l'interrogeait. Mais quand on l'interrogeait, elle parlait.
Elle a mis Suger au rencard, si je puis dire. Elle l'a éloigné de la cour.
Elle l'a éloigné, mais ils n'ont jamais été brouillés quand même. Mais Prudent, quand ils sont partis à la croisade, il lui a mis un jeune clerc qui s'appelait Eudes de Saint-Denis, qui le tenait informé et qui a commencé la chronique de toute cette croisade. C'est grâce à lui qu'on connaît tout l'incident d'Antioche et tout ça.
Beaucoup d'auteurs, y compris médiévaux, ont laissé entendre qu'elle avait eu un comportement leste pour le moins, notamment avec le fameux Raymond de Poitiers pendant cette fameuse croisade. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça?
Moi, j'ai pris parti dans mon livre parce que je trouve que l'histoire est très belle.
Et c'est romanesque, en tout cas.
C'est romanesque. Et puis, je pense que son mari ne l'aurait pas, comme vous le disiez tout à l'heure, vraiment enlevé parce qu'il l'a forcé à partir. Et s'il n'y avait pas eu une histoire grave, je pense que ça ne serait pas produit. Mais Raymond a quand même sacrifié sa vie parce qu'il a assuré le réembarquement de la flotte. Et c'est grâce à lui que l'armée de Louis VII a pu réembarquer sans dommage. Donc c'est un petit peu aussi comme s'il avait quelque chose à se faire pardonner, parce que lui est mort en protégeant l'armée.
Oui.
Donc toute cette histoire, moi je trouve qu'elle est trop jolie.
C'est incroyable. Et puis alors les péripéties, les vicissitudes du retour, ça c'est encore plus incroyable.
Ah oui, qu'elle ait été faite prisonnière, etc.
On dirait que tout ça a été inventé pour la romancière que vous êtes. C'est tout à fait inouï. C'est vraiment...
Ça, c'est vrai qu'on s'essouffle un peu à suivre Aliénor. En tout cas, on ne s'ennuie pas parce qu'elle elle chevauche tout le temps. Elle parcourt l'Europe, elle parcourt l'Espagne.
Alors, comment ? Et c'est là, évidemment, que la chronique est un peu courte et que le roman apporte un lien et des éléments que ne peut pas fournir la chronique historique. Comment Aliénor va-t-elle s'éprendre de ce jeune duc d'Anjou? Quand je dis ce jeune duc d'Anjou, des deux d'abord, parce que finalement le père et le fils étaient tous deux à la cour.
Oui, mais elle a fait croire, je crois qu'elle a été très intelligente.
En tout cas, c'est le parti que vous prenez, vous.
Oui, mais quand on regarde les chroniques quand même, il semblerait que le secret était très important pour elle. D'abord parce qu'il fallait que Louis VII accepte ce divorce. Elle avait semé le doute en disant qu'ils étaient...
Cousins.
Qu'ils étaient parents. Elle l'avait déjà dit à Antioche d'ailleurs. Et lui qui était tellement religieux, ça le torturait. Et puis ensuite, une fois qu'elle était divorcée, tant qu'elle n'était pas retranchée dans son royaume, n'importe quelle personne qui s'emparait de sa personne devait l'épouser pour réparer son honneur, mais du coup héritait tous ses biens. Donc ça a été une cavalcade et le secret était vraiment très bien tenu et je crois essentiel. Mais je crois pas qu'il s'agissait d'amour au début. Elle avait envie de quelqu'un
riche seigneur, très puissant, avec beaucoup d'avenir.
Avec beaucoup d'avenir et qu'elle pourrait manipuler parce que elle adore la politique et elle est pas du tout faite pour rester au gynécée à s'occuper des bébés. Ça, c'est pas trop son genre, quand même.
Henri fut d'emblée séduit par cette ravissante reine de France qui n'avait pas méprisé sa jeunesse, écrivez-vous. Il préférait épouser une femme mûre qu'une oiselle effarouchée avec laquelle il n'aurait rien eu à partager. Aliénor était belle, riche et puissante, qu'elle eût jeté son dévolu sur lui, alors que tant de seigneurs voulaient la prendre pour femme, y compris son frère cadet, qui n'avait pas craint de lui tendre une embuscade, l'avait flattée. Quand elle lui avait envoyé ses premiers émissaires pour l'informer qu'elle était libre et cherchait un époux capable de l'épauler dans l'exercice du pouvoir, il n'avait pas hésité un instant à donner son accord. Le reste de la correspondance échangée par émissaires interposés avait surtout consisté à mettre au point les détails de l'affaire. Il avait fallu décider quand le jeune duc de Normandie devait arriver avec sa suite à Poitiers. Aliénor avait invoqué de façon pressante la nécessité de garder secret un tel projet, Henri devant venir avec une escorte réduite, mais bien choisie. D'amour, il n'avait bien sûr pas été question.
Je pense qu'ensuite, ils ont été amoureux. Mais qu'il ait eu des maîtresses, il avait déjà deux enfants avant de l'épouser. Donc il était tout jeune et elle les a élevés, les enfants. C'était pas tellement ça qui l'a embêté. C'était la maîtresse installée dans les résidences royales.
Oui, ça c'était aller un peu contre le tempérament
pas,
de la
c'était
dame.
C'était pas du tout l'époque. Ça a commencé les premières favorites royales. Ça a commencé avec Agnès Sorel. Il n'y en avait pas avant.
Évidemment. Elle n'avait pas du tout l'intention d'être la première, en l'occurrence. Nous allons voir comment Aliénor va armer sa vengeance.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Thank you.
sur Europe 1, un extrait de The Neighbourly Consort. Vous nous parlez d'Aliénor d'Aquitaine cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Isor de Saint-Pierre, reporter et écrivain, auteur d'Aliénor l'Insoumise aux éditions Albin Michel.
L'histoire d'Angleterre est une histoire sombre, constamment peuplé de drames et de crimes de sang. Alors là, on pense bien entendu à l'assassinat de Thomas Becket qui a profondément marqué le règne d'Henri II Plantagenet. Cette nouvelle dynastie, finalement, s'est imposée sur le trône d'Angleterre par le sang, par la contrainte, pour une ancienne reine de France, pour une duchesse d'Aquitaine, pour Aliénor d'Aquitaine. Est-ce que ça n'était pas un univers et des mœurs difficiles?
Le roi de France, on se sent pas trop gêné non plus dans les assassinats, mais c'est vrai.
En l'occurrence.
Ah non, lui, pas du tout. Il était tellement saint, tellement confié en dévotion. Mais en fait, Henri Plantagenet n'a jamais demandé la mort de Becket. Ça, vraiment, il l'a juré, il l'a... Toute sa confession est là. Et simplement, il avait un caractère de cochon. On appelait ça des accès de bile noire. Il se contrôlait pas du tout. Et il a dit imprudemment, mais quand est-ce qu'on va me délivrer de, en gros, de cet emmerdeur? Et trois jeunes chevaliers ont cru que... En tuant Becket, ils auraient la faveur du roi. Et lui, il leur a envoyé ses troupes en leur disant « Mais non, je vous en supplie, arrêtez, arrêtez !» Et c'était pas voulu, c'était une imprudence fatale, on va dire.
Mais Aliénor, elle-même, avait un faible pour ce Becket.
Elle a su le conquérir quand même par son intelligence, parce que cette amitié extraordinaire, qui n'était pas du tout homosexuelle, hein, même s'ils dormaient ensemble, etc., mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Pour honorer quelqu'un, le roi, par exemple, faisait venir un de ses ministres et lui offrait de partager son lit.
Oui, ça c'était coutumier.
C'était pas tout, ça avait rien de sexuel. Mais elle a su exister dans ce duo très très fort. Mais c'est un rapport presque amoureux, enfin amoureux intellectuellement, parce que leur histoire, elle est faite d'exil, de fâcherie, de réconciliation. C'est bien compliqué, les rapports d'Henri et de Thomas. Et Thomas, quand il est mort, il a cru qu'il était assassiné par ordre du roi. Et il a dit, Henri, je meurs de vous avoir trop aimé. Et là, l'envoyé qui a pu lui dire juste avant qu'il meure, mais non, le roi n'a pas voulu votre mort. Et là, Thomas avait peut-être est mort apaisé. Enfin, on le souhaite en tout cas.
Quel roman, décidément. Hein, c'est complètement extraordinaire. Alors, Aliénor avait eu beaucoup de mal à donner des enfants à Louis VII, des filles, nous l'avons vu. Là, c'est l'inverse. Avec Henri II, naissent une succession de fils, tous plus vigoureux les uns que les autres.
Il y a des filles aussi.
Il y a des filles aussi, d'ailleurs, oui.
Oui, ça, ils ont eu énormément d'enfants. Et sa grande force, c'est que normalement, les pauvres femmes à l'époque mouraient à petit feu de toutes ces naissances. Elle, pas du tout. Elle est à peine malade, elle se relève, elle recavale.
C'est une force de la nature. Hein,
oui,
vraiment.
Mais autrement, elle n'aurait pas vécu aussi longtemps,
oui, 82 ans.
C'est très très rare, très très rare. Ouais. Et sans jamais être malade en plus.
Ouais, ceci expliquant peut-être cela. Ses enfants, elle va les élever pour elle d'une certaine manière et peu à peu, elle va essayer de les détourner de leur père. Ça n'est pas l'un des aspects les plus séduisants d'Aliénor d'Aquitaine.
Oui, mais on peut voir les choses un petit peu autrement. Henri était devenu très 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 jaloux du pouvoir. Il l'avait écarté, elle. Et il ne voulait absolument pas, il avait beau, comme vous le disiez, faire couronner son fils roi, il lui offrait absolument aucune influence d'aucune sorte. Et je crois qu'il a été un petit peu maladroit aussi. Des fils fougueux comme ça, il faut un peu les faire siéger au conseil, ce qui n'était pas le cas, les consulter un petit peu. Il a tout fait quand même pour que cette fougueuse jeunesse en ait assez d'un roi qui ne...
Et cette fougueuse jeunesse essaie de se révolter. On voit qu'il se réfugie à la cour de France, ce qui est un affront terrible lorsqu'on connaît l'histoire,
ah oui,
bien entendu.
C'est très drôle, ça.
Ça, c'est inouï.
Tout à fait inattendu.
Et elle-même tente de rejoindre
la cour de France.
C'est incroyable. Alors, elle est arrêtée en chemin. Et alors là, c'est une période très dure pour elle.
Au début, il l'a vraiment détenue dans des conditions très difficiles. Et puis surtout, il l'a forcée à embarquer pour l'Angleterre. Et pendant 15 ans, elle ne revoit pas son pays. Et elle n'est pas dans un cachot, hein, c'est pas ça. Elle a sa suite, sa cour, elle a même le droit de temps en temps de chasser à court, de faire des choses comme ça. Mais enfin, elle n'est pas libre et surtout elle est éloignée de la politique, elle s'ennuie horriblement.
Heureuse.
15 ans, c'est beaucoup. Hein.
C'est très long. Mais
oui.
Son mari va finir par mourir et cette santé tout à fait extraordinaire lui permet, elle, de prendre alors sa revanche. Elle va vouloir régner à travers les successeurs d'Henri, bien entendu. Et notamment, elle a ce petit protégé, ce fils préféré, qu'est Richard.
Elle a un amour fou pour Richard. Ça, c'est... Parce que pour elle, c'est le symbole...
C'est peut-être la plus grande histoire de sa vie, ça, d'ailleurs, d'une certaine manière.
Oui, peut-être. Mais pour toute l'Europe, il a symbolisé le chevalier parfait. Il a peur de rien, il est beau. Mais alors, bizarrement, il a quand même dû, quand il est parti à la croisade, faire amende honorable pour crime de bougrerie.
C'est-à-dire qu'en fait, il est homosexuel, pour parler clairement. Oui.
Mais on ne disait pas ça comme
non,
ça.
Non, bien sûr. Mais enfin...
bougrerie, c'est joli, ouais. Je trouve. Enfin, c'est joli, c'est assez imagé. Et donc, sa mère s'est dépêchée de lui trouver une petite épouse, qu'il a complètement adorée d'ailleurs. Mais malheureusement, elle ne lui a pas donné d'enfant. Donc, elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire.
On ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on vous lit et lorsqu'on suit les rapports entre Richard et sa mère, on ne peut pas s'empêcher de songer à ceux qui unissaient autrefois Alexandre le Grand et sa propre mère. Il y a vraiment le même genre de rapport et cette volonté de la reine de régner à travers un chevalier parfait qui, quelque part, va la décevoir par la nature de ses amours. Il y a vraiment cette dimension.
Je crois que c'est pas tellement ça. Je crois qu'elle s'en fichait, mais elle a compris qu'il fallait d'urgence lui trouver... Comme vous disiez, elle n'était pas très... elle allait à la messe parce que c'était obligatoire. Mm-hmm. Mais elle n'était pas très regardante sur la morale non plus.
Il faut dire qu'elle avait de l'ascendance de ce point de vue. Elle n'était pas issue d'une famille très religieuse.
Non. Et son grand-père, le prince Troubadour, avait défrayé la chronique, etc. Non, je crois que c'est elle l'a mariée parce que politiquement, c'était correct et tout à fait nécessaire.
Alors, elle l'envoie donc à la croisade, expier son crime de bougrerie, et il va trouver le moyen de se faire capturer. Alors ça, c'est terrible.
C'est d'autant plus terrible que c'est absolument interdit. On n'a absolument pas le droit de capturer un croisé, de s'emparer de ses terres ou de demander rançon. D'ailleurs, l'empereur va, à cause de ça, lui et ses états vont être excusés. C'est un crime très très grave de faire ça. Mais il s'en fiche, il le tient. Et elle, quand même, avec sa petite escorte pour ne pas se faire arrêter en chemin et cette rançon.
C'est une femme âgée à ce moment-là, surtout pour l'époque, on peut même dire très âgée. Elle va monter à cheval, elle convoque le banc et l'arrière-banc, elle réunit la rançon, elle va libérer son fils.
Et elle le libère parce que même quand elle arrive avec la rançon, l'empereur continue à avoir des revendications très très compliquées. Et Richard est presque sur le point de tout refuser. Et là, elle est très habile. Elle arrive à flatter l'empereur, à dire « mais oui ». Et puis elle fait signe à son fils qu'une fois qu'il sera parti, il sera parti, qu'on va respecter aucune clause du contrat qui, de toute façon, n'avait pas lieu d'être puisqu'on n'a pas le droit de rançonner à un croisé. Donc ils peuvent jurer ce qu'ils veulent, ils s'en fichent.
Au fond, forte, ambitieuse et visionnaire, et néanmoins sur la forme pleine d'habileté, insinuante quand il le faut, avec un esprit tout simplement politique.
Elle adore la politique. Et elle a d'ailleurs compris la première que sa ville de Bordeaux, à laquelle elle a toujours été très attachée, il fallait que ça... C'est elle qui en a fait ce port de commerce et ce centre de commerce avec l'Angleterre, avec toute l'Europe. Non, elle avait un côté visionnaire, ça c'est vrai.
Et elle avait à Poitiers institué les fameuses cours d'amour qui ont tellement, tellement inspiré toutes sortes d'historiens plus ou moins bien intentionnés. Oui, voilà.
Des cours orgiaques, c'était tout à fait ridicule. C'était des...
Au contraire, ce sont des lieux de civilisation, disons.
Tout à fait. Je ne sais plus si c'est Bernard de Ventadour ou un autre qui nous donne un exemple des débats qui, si je... c'était un peu comme des joutes, si vous voulez. Et il y en avait un qui était très célèbre, de savoir quand une dame faisait du pied à un chevalier sous la table, ou si elle lui prenait la main sous la nappe, ou si elle lui chuchotait un mot doux à l'oreille, lequel des trois était le mieux aimé. C'était joli, ça n'avait rien d'orgiaque. C'était au contraire une manière de vanter l'esprit des dames. Et pas seulement de forteresses à prendre, enfin de femmes à prendre comme des forteresses, on va dire.
Elle mourra donc à l'abbaye de Fontevraud le 31 mars 1204, c'est-à-dire qu'il va bientôt y avoir 810 ans. Ça paraît improbable lorsqu'on vous entend parler. On a l'impression que nous parlons d'un personnage quasi contemporain. Isaure de Saint-Pierre, Aliénor l'insoumise, c'est un roman passionnant, vous l'aurez compris, chez Albin Michel.
Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Pierre-Louis qui veut connaître l'origine des concepts droite et gauche en politique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Pierre-Louis, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il aimerait connaître l'origine des concepts droite et gauche en politique.
Eh bien, habituellement, je réponds que tout est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Comme bien souvent, l'origine de cette distinction remonte à la Révolution française et elle fait écho à un autre retour aux origines, il y a quelques semaines, sur le droit de veto, rappelez-vous. En 1789, les États généraux qui avaient été convoqués par Louis XVI se sont érigés en Assemblée nationale. Vous savez, c'est le serment du jeu de paume. Assemblée nationale qui elle-même devient Assemblée constituante. Et à l'été, on débat d'un certain nombre de sujets, dont le poids de l'autorité royale face à la future Assemblée populaire. Et il est question notamment de donner au roi la possibilité d'un droit de veto. Eh bien, c'est à ce moment-là que va apparaître la première distinction droite-gauche. Ceux qui sont favorables à ce droit de veto, qui sont donc favorables au roi, si l'on ose dire, qui viennent largement de la noblesse, du clergé, mais pas seulement, vont s'installer à la droite du président de l'Assemblée, tandis que les opposants, qui sont plus majoritairement issus du tiers-état, vont s'installer à la gauche. L'un des députés de la noblesse, le baron de Gauville, écrit ceci dans son journal. « Nous commencions à nous reconnaître. Ceux qui étaient attachés à la religion et au roi s'étaient cantonnés à la droite du président afin d'éviter les cris, les propos, les indécences qui se passaient dans la partie opposée. » Alors, pourquoi ce côté plutôt qu'un autre? Tout simplement parce que ça, c'était évangélique, n'est-ce pas? Il vaut toujours mieux être à la droite du père. Ce sont, si vous voulez, les places d'honneur. Et un certain nombre des députés issus du haut clergé étaient tout simplement habitués à s'asseoir à la droite dans toutes les assemblées ou réunions auxquelles ils pouvaient être conviés. Alors, cette distinction, peu à peu, elle va s'accentuer. Dans l'Assemblée nationale de 1791, les défenseurs de la Constitution sont également assis à droite. À gauche, vous avez les progressistes, si je puis dire, et puis les modérés sont déjà au centre, vous voyez. Et ça ne fera que se développer d'assemblée en assemblée. Au moment de la Restauration, en 1814-1815, les ultra-royalistes s'installent naturellement à droite, si je puis dire. Les constitutionnels au centre, les libéraux à gauche. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à employer dans le langage courant, les expressions de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Mais dites-vous bien qu'on ne va faire de ces mots-là de véritables symboles d'appartenance politique que beaucoup plus tard, un siècle plus tard, sous la Troisième République. Alors là, oui, on parlera de gauche républicaine, de centre-gauche, d'union des droites, etc. À partir de la fin du 19e, du début du 20e, les mots droite et gauche sont popularisés en quelque sorte et ils finissent par décrire la différence de d'opinion entre les citoyens eux-mêmes et non plus seulement entre les élus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en est pas du tout sorti de cette dichotomie-là.